Sarà il buio.
Je me souviens très bien de leur réaction.
quand j'ai montré ce que nous allons voir ensemble rapidement, comment Saint Thomas avait analysé les passions. Ils étaient très étonnés de dire « Au Moyen-Âge, on a découvert tout cela. » Et donc, on a analysé les passions d'une façon beaucoup plus profonde qu'aujourd'hui. C'est vrai, je crois que c'est un patrimoine perdu. Et comme nous avons tous un avantage de revenir à ce traité des passions de saint Thomas, c'est peut-être la bonne manière d'entrer dans l'originalité de saint Thomas. Ce côté affectif, sensible. Après cette petite note d'introduction, continuons ce que nous avions vu la dernière fois. L'être humain est un être de vie sensible. Je vous parlerai tout à l'heure au terme de ce que j'ai oublié la fois dernière de vous parler, plus exactement, on n'a pas eu le temps, de la cogitative. Si tout le cours, on a bondi sur moi en me disant que vous n'avez pas parlé de la cogitative et de l'estimative. J'ai promis d'en parler aujourd'hui. Mais après, à la fin, après la connaissance, c'est l'aspect affectif. Notre psychisme implique toujours ces deux aspects, connaissance et affectivité, à tous les niveaux. L'instinct unit connaissance et affectivité. Mais dès que vous êtes au niveau sensible, vous avez des connaissances sensibles. Et ces connaissances sensibles sont suivies presque immédiatement, j'allais presque dire automatiquement, d'une réaction affective. Quand vous touchez quelque chose de très doux, c'est agréable. Quand vous touchez du rugueux, c'est moins agréable. Quand vous touchez quelque chose de très chaud, vite, vous enlevez votre main. Votre affectivité est là pour immédiatement écarter. C'est le sens du toucher qui est le sens le plus affectif. La vision, beaucoup moins. C'est déjà plus proche de la connaissance intellectuelle. Le goût est très affectif. On aime le sel, mais quand il y en a trop, c'est moins agréable. On aime le miel, c'est biblique, donc c'est permis. Alors, c'est quelque chose qui nous oriente vers la terre promise. Donc, on aime tel ou tel aliment. Vous voyez, le côté affectif, on aime. C'est une connaissance. Cette connaissance est liée à l'affectivité. Aristote ne traite pas de l'affectivité parce que pour lui, ce qui est important en premier lieu, c'est le point de vue de la connaissance. Mais pour nous, aujourd'hui, on fait la philosophie après toutes ces découvertes psychologiques d'aujourd'hui. On est obligé de faire cette analyse de l'affectivité sensible et passionnelle pour essayer d'assumer en philosophie ce que les psychologues peuvent dire. On n'a pas le droit de laisser tomber les psychologues en leur disant « Vous n'êtes pas des philosophes. » Alors je tourne le dos. Non. Les psychologues sont merveilleux quand ils restent des psychologues. Quand ils veulent remplacer les philosophes, c'est plus ennuyeux. Mais quand ils restent des psychologues, ils peuvent nous donner des choses très intéressantes. Certaines lois de notre affectivité sensible, de notre psychisme. Parce que je crois que toute la différence qui existe entre la psychologie d'aujourd'hui, qui n'était pas inventée sous Aristote, qui n'était pas inventée sous saint Thomas, la psychologie est relativement récente. compare, dis-moi, la philosophie. La psychologie vous donne des lois de l'exercice de notre psychisme. Donc, dans la psychologie, vous n'analysez pas les niveaux différents de connaissances sensibles, imaginatives, et vous ne voyez pas suffisamment les différences entre l'instinct, l'affectivité sensible et l'affectivité spirituelle. Or, il faut distinguer ces niveaux. L'appétit naturel ou instinctif, l'appétit sensible, ce que nous allons voir maintenant, les passions et toutes les demeures dans les passions, et puis l'affectivité spirituelle, qui est le point de vue volontaire. C'est l'analyse philosophique qui peut seule préciser ces différents niveaux. Parce que l'analyse philosophique essaie de préciser le caractère spécifique de ces diverses opérations. Tandis que le psychologue, lui, saisit les réactions, les effets. Et il essaie de saisir les lois qui commandent ces différents effets. Ce sont des lois antécédents et conséquents. Tandis que le philosophe recherche des causes. C'est pas la même chose. C'est toute la différence qu'il y a entre les lois et les causes. C'est une distinction très importante à faire, qu'on pourra essayer progressivement de bien comprendre. Face à ce progrès énorme de la psychologie d'aujourd'hui, face à toutes ces études psychanalytiques d'aujourd'hui, il est nécessaire pour le philosophe d'essayer de comprendre ces zones différentes d'affectivité et de comprendre la diversité et le caractère propre de cette affectivité sensible et spirituelle. Donc nous allons maintenant essayer d'étudier qu'est-ce que c'est que cette affectivité sensible qu'on appelle passion. Les passions, ce sont ces réactions très directes que nous avons en face d'un bien sensible ou d'un mal sensible. Prenez tout simplement l'exemple que vous pouvez avoir suivant les individus. Quand on aime particulièrement, je prends le miel, le chocolat, c'est moins biblique, le vin, ça redevient biblique, heureusement. L'amour particulier qu'on peut avoir pour du bon vin, ce que les Grecs aimaient beaucoup à donner comme exemple, que les Français aiment beaucoup aussi. C'est là notre parenté avec les Grecs. C'est qu'il y a là quelque chose qui affine notre goût et qui nous permet de comprendre certaines réactions passionnelles. On aime un gâteau au chocolat. Regardez les gosses. C'est extraordinaire. Eux ne cachent pas leur passion. Les grandes personnes cachent leur passion. Du moins, ils essaient. Et si on les regarde attentivement, on s'aperçoit bien qu'ils sont encore des êtres passionnés. Heureusement, la passion en soi n'est pas mauvaise. Ce sont les stoïciens qui ont dit que la passion était mauvaise. Mais c'est terrible de vivre à côté d'un stoïcien. C'est terrible. C'est quelqu'un qui a tué ses passions. Il les a brisées. Pour soi-disant rester un homme. Et c'est vrai que beaucoup de pères de l'Église, au début, étaient sous l'influence stoïcienne. Saint Thomas, en revenant à Aristote, veut réhabiliter les passions. Ça doit rendre très sympathique, Saint Thomas. Saint Thomas réhabilite les passions. Il montre que les passions, c'est quelque chose d'humain. Mais évidemment, Il y a un danger, c'est que les passions peuvent très bien, quand elles sont trop véhémentes, arrêter l'affectivité volontaire, empêcher notre intelligence de s'exercer. Quelqu'un qui est trop pris par ses passions risque toujours un peu de perdre pied. Il devient une subjectivité affolante. Il n'y a plus que ça qui compte. Ce qu'il aime passionnément. Il est tellement pris par ça qu'il ne voit plus que cela. Les passions, en raison même de leur violence, ont été rejetées, mais violemment, par les stoïciens. Lisez ce petit livre de Sénèque, facile à lire puisqu'il a été traduit. Si vous êtes bon en latin, lisez-le en latin. C'est du bon latin, Sénèque. Le De Ira de Sénèque. C'est admirable, le De Ira de Sénèque. Si on avait le temps, j'aurais commencé par ça. Parce que Sénèque montre ce que c'est que la colère. Il montre comment la colère fait que l'homme devient pire qu'un animal. Et c'est vrai, quand vous êtes en face d'un homme colérique, c'est effrayant. On s'est tous amusés, si on était pensionnaire, de mettre en colère certains de ses professeurs, ou certains de ses pions, parce que ça c'est encore mieux. Et de le mettre en colère, d'arriver à le mettre en colère, il n'y a rien de plus drôle que de mettre en colère quelqu'un de raisonnable, puisqu'il doit être surveillant. De quelqu'un de raisonnable, puisqu'il est professeur. Je me souviens, je ne veux pas les décrire parce que ça nous entraînerait trop loin, de certaines de ces colères qu'on avait bien manœuvrées. C'est très inhumain. Mais qu'ouvrez-vous, quand on est jeune, on fait des tas de choses qui ne sont pas très, très, très justes. On les ferait plus après. Mais quand on est jeune et qu'on a un pion qui vous agace, parce qu'il est terriblement tatillon, on voit qu'il n'y a qu'un seul moyen pour lui enlever toute autorité, c'est de le mettre en colère. Mettre en colère quelqu'un qui doit exercer l'autorité, ah, c'est effrayant. Ça lui enlève toute autorité. Oui, c'était comme ce gosse, je me souviens. C'était à Genève, là. Il avait 4 ans. Il était assis sur un divan. Sa mère arrive furieuse. Qu'est-ce que tu fais là ? Le gosse reste. Et puis dit simplement à sa mère, « Maman, quand tu me le diras d'une autre manière, j'obéirai. » Et ça dit la vérité, ce qu'il y a de bon. C'est que la colère supprime l'autorité. Et c'est pour ça que quand on est gosse et qu'on est agacé par un pion, on veut le mettre en colère pour empêcher qu'il continue de sévir. Et ça réussit admirablement. C'est extraordinaire, ça désarme les gens. C'est très important, ça, de voir que la colère, la passion dominante, c'est la colère. Il y a deux passions extrêmes, l'amour et la colère. Et la colère est encore un amour. C'est un amour qui n'est pas satisfait. Vous vous mettez en colère quand vous n'êtes pas satisfait. Voyez, ordinairement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Un père de famille a eu beaucoup de difficultés pendant toute la journée dans ses affaires. Il s'est tenu comme il a pu. Il a essayé de dominer. Puis quand il rentre en famille, ou alors, pour être sûr, hein, la moindre petite chose qui n'est pas exactement ce qu'elle doit être, la colère éclate. On sait très bien ça. C'est sur un autre. Il s'est tenu. Il a été humilié. Il n'a pas dit. Il n'a rien dit. Il s'est tenu. Mais c'est trop fort. Alors, après... Quelqu'un, c'est très vrai, quand on enseigne, j'ai une vieille expérience de ça, les fins de trimestre, on est fatigué, il suffit d'un rien pour qu'on se mette en colère. Alors si on est vraiment, si on domine ses passions, on fait des colères froides. Ça, c'est beaucoup plus fort. Parce que des colères non froides enlèvent l'autorité, mais des colères froides augmentent l'autorité. Ça, c'est toute l'astuce. C'est de mettre la passion au service de l'autorité. Ça, c'est très grand, du reste. C'est beau. C'est un orage dans lequel il n'y a pas de pluie. Il y a que des éclairs. Et puis, le tonnerre qui suit. Alors, la passion, c'est cet état affectif, sensible, où notre appétit sensible, notre capacité d'aimer est pris. Et c'est pour ça qu'on distinguera deux grandes attitudes au point de vue passionnel, le concupiscible et l'irascible. Cette distinction, elle est très vieille. Elle relève des pythagoriciens. C'est très très ancien et elle est encore aujourd'hui. Le concupiscible et l'irascible. Le concupiscible, c'est très simple à comprendre. C'est le petit chat dont vous grattez le sommet de la tête qui ronronne en face du feu. Ça, c'est le concupiscible. Le concupiscible, c'est l'amour que nous avons pour un bien immédiat. On se précipite dessus. C'est ça le concupiscible. Ça regarde un bien sensible donc qui est immédiat. L'irascible regarde un bien difficile à conquérir. Ça fait deux grandes tendances dans notre psychisme, et je crois que le psychisme des hommes se différencie selon que le concupiscible domine ou que l'irascible domine. C'est très facile à comprendre. Et les hommes très équilibrés ont un concupiscible dominé, un irascible dominé, mais un irascible et un concupiscible qui se correspondent bien, en grande harmonie. Parce qu'il y a une harmonie entre les deux. Le concupiscible est fondamental. Il est premier. Et c'est pour ça que la première des passions, c'est la passion de l'amour passionnel qui commande tout le concupiscible. L'amour passionnel, vous voyez ce que c'est? C'est d'être attiré par un bien sensible. On est attiré par un bien sensible et on est en bonne naturalité vis-à-vis de ce bien sensible. C'est ça l'amour. On est porté vers ce bien sensible. Alors on ronronne. C'est très curieux. Parce que le chat ronronne, on le fait pas. On voit très bien ce que c'est. On est saisi, on est pris par notre affectivité. Par notre affectivité sensible. On est saisi par ce bien. Et ce bien, il agit sur nous. Il nous attire. On est attiré passionnément par ce bien. On n'analyse pas. La passion ne s'analyse pas. Le philosophe analyse ses passions. Et il analyse aussi les passions de ceux qui voient auprès de lui. Et ça, c'est le philosophe qui analyse. Celui qui est passionné n'analyse pas. C'est du reste pour ça que ça peut être quelquefois si amusant à voir. Parce qu'il fonce. Il y a quelque chose d'un élan direct dans les passions. On est pris par ce bien sensible. Le bien sensible, où il est immédiatement donné, où il est absent. D'où on aura deux espèces de passions qui vont moduler l'amour. Le désir et la joie, la jouissance. Quand le bien sensible est donné immédiatement, quand le bien sensible est présent, qu'on le possède, qu'on peut... peu l'accaparer. Parce que la passion est cathartique, hein. Ça, c'est bien évident. Il n'y a pas de désintéressement dans les passions. C'est du reste pour ça que les pères de l'Église supprimaient la passion du Christ, en disant il est complètement donné. Mais un homme généreux et passionné. Mais sa passion est au service d'un amour supérieur. Mais la passion pour elle-même est toujours captative. On veut pour nous. On veut accaparer pour nous. On veut se servir de ce bien sensible. On veut l'utiliser pour nous. Quand ce bien sensible est présent, alors on en jouit. C'est la jouissance. Alors pensez toujours au petit chat qui ronronne, c'est la jouissance. Et c'est très curieux de voir combien la passion de jouissance peut être forte. Je me souviens, c'était en Afrique, au Sénégal. Je voulais voir un petit porc le matin sans qu'il y ait d'Européens, à l'état pur. Alors on m'avait indiqué, c'était pas loin de Kermoussa, je préfère Kermoussa, c'était pas loin de Kermoussa, chez les bénédictins. Et en effet, je suis arrivé très tôt le matin. Les pêcheurs revenaient. Il y avait toutes les femmes qui étaient là. C'était très beau comme spectacle parce qu'il fallait voir encore ces bateaux de pêcheurs qui revenaient de la pêche et qu'on mettait sur des rouleaux de bois et qu'on tirait. Et on les tirait pour les... quand ils étaient chargés de poissons, puis on les renvoyait après pour de nouveau pêcher. Il y avait ce spectacle étonnant. Ces femmes, avec leurs grands couteaux, dépesaient tout de suite ces poissons. Et puis on faisait rôtir, si j'ose dire, ces poissons au soleil. Le soleil commençait. Il y avait pas mal de mouches, mais ça faisait pas d'importance. Aucune espèce d'importance. La chaleur permet toute chose. Et ce qu'il y avait de plus beau, c'était ces oiseaux sauvages, les charognards, comme on les appelle, hein, qui d'habitude, on ne peut pas les approcher. C'est des grosses bêtes énormes. On ne peut pas les approcher. Là, elles étaient pour se nourrir de ces intestins de poissons. Et ils mangeaient d'une façon tellement forte qu'on pouvait leur caresser le plumage. Ils ne bougeaient pas, ils ne bougeaient pas. Oh, c'était le concupiscible dans toute sa force. C'était extraordinaire comme exemple. Ils étaient saisis par ça. Il n'y avait plus que ça qui existait. Transposé. On voit très bien. Ça peut exister. Pour des charognards, hein. C'est des oiseaux de proie. Eh bien, ces oiseaux de proie, le concupiscible prenait tout. C'était dans la jouissance. La jouissance capte notre sensibilité d'une façon telle que toute notre vie est saisie par ça. C'est extraordinaire, ça. Je prends exprès cet exemple-là parce que c'est quand même très parlant. On peut en prendre des quantités d'autres. Un gosse qui pleure. Et quand vous lui donnez un petit bonbon, une crème au chocolat qu'il aime, il se jette dessus. À ce moment-là, les pleurs tombent, c'est fini, fini, absolument. Et il est tout entier, à prendre ce qu'il aime. Nous avons donc trois passions à l'égard du bien. L'amour, le désir, la jouissance. Face au bien sensible, il y a le mal sensible. Et les psychologues le disent, et ils ont raison de le dire, que le bien sensible n'existe jamais à l'état pur. Ça ne m'en avait dit avant eux. C'est que, de fait, le bien sensible, c'est le bien sensible d'une réalité qui implique d'autres aspects, qui qui peuvent être très bien pour nous, quelque chose de nocif. Le chocolat est très bon au goût, mais peut être nocif pour le foie. Et si vous avez un estomac fragile, vous savez bien. Donc, il est à la fois bon et mauvais. Et vous pouvez renverser ce qu'on dit couramment. J'aime beaucoup les fruits, mais les fruits ne m'aiment pas. On comprend très bien ce que ça veut dire. C'est que pour le goût, mais pour mon estomac, non. Il y a cette dualité parce qu'aucun bien sensible n'est un bien absolu. Tout bien sensible est un bien relatif. Quand je suis pris par lui et passionnément pris par lui, je jouis de ce bien sensible. Et jouissant de ce bien sensible, je crois qu'il n'y a plus que cela. Et c'est ça le danger, parce que je ne vois plus que cela. Et alors à ce moment-là, je peux en prendre des quantités jusqu'au moment où je n'en peux plus. Puis il y a le lendemain. Ça regardera la mer, parce qu'il sera malade. Et donc le mal sensible, c'est ce qui me nuit sensiblement. En face du mal sensible, il y a une passion particulière qui est la haine. La haine, c'est cette opposition violente, passionnée à l'égard du mal sensible, ce qui me fait mal. La haine, passion, n'est pas un mal. On ne doit pas aimer le mal sensible. Rejeter le mal sensible, c'est un signe de santé. Faire le discernement entre le bien sensible qui me capte, qui m'attire, et le mal sensible qui me fait mal. Ben, il faut faire le discernement. Et donc, cette passion de haine, ce sentiment qui consiste à rejeter de la manière la plus violente qui soit, le mal sensible est bon. La haine peut devenir dangereuse. La haine noire, elle devient dangereuse quand ce n'est plus seulement le bien sensible qu'on rejette, mais que c'est la personne. Je ne peux pas haïr une personne, mais je peux haïr le mal qu'elle me fait et le mal sensible qu'elle me fait. Et ça, oui. Le mal sensible, ou il est présent, c'est alors la tristesse. Ou il est éloigné, c'est alors la fuite. Je fuis. On comprend très bien que, de fait, le mal suscite en moi des passions diverses. La haine. Je ne peux pas supporter ce mal. Et donc je le rejette de toutes mes forces passionnées. Hein. De ma passion, c'est une analyse que nous faisons. Il est bien évident que nos passions ne sont jamais à l'état pur. Mais le philosophe essaie de saisir qu'est-ce que c'est que la passion. Et pour saisir qu'est-ce que c'est que la passion, il saisit la diversité de ses moments passionnels. La tristesse, vous voyez, c'est juste l'opposé de la jouissance. La tristesse, c'est celui qui pâtit d'une façon telle qu'il va un moment comme mourir. C'est pas l'angoisse. L'angoisse est encore autre chose. La tristesse est passionnelle. L'angoisse, c'est beaucoup plus complexe. On essaiera de voir ce que c'est que l'angoisse au terme, parce que c'est beaucoup plus complexe. Les psychologues parlent beaucoup d'angoisse, mais au fond, souvent, l'angoisse, ça ne peut pas se préciser. C'est ce qu'on dit ordinairement. L'angoisse est quelque chose qu'on n'arrive pas à préciser. Et on comprend très bien, parce que je crois que l'angoisse a perdu éducation, les passions. C'est le côté sauvage qui est en nous. Alors quand on est dans une culture très très civilisée, c'est bon qu'il y ait encore un peu du sauvage en nous. Parce qu'on pourrait rien faire d'autre si c'était trop coupé, qu'il n'y avait plus rien du tout. Donc là, il y a encore quelque chose de nature. Ça pousse bien. Quand on voit un gosse passionné, on est heureux. C'est pas commode à l'éduquer, mais on est heureux. Il est passionné. Au moins, il y a quelque chose en lui. Tandis que vous voyez un morph, hein, à 4 ans, un morph. Qu'est-ce que ce sera alors? Quand il aura 30 ans. Parce que c'est justement ça le point de vue passionné, c'est qu'on ne peut pas être indifférent. La passion, c'est le contraire de l'indifférence. L'indifférence, ah, c'est beaucoup trop intellectuel, être indifférent. Tandis qu'au point de vue passionné, vous êtes pour ou contre. Vous aimez ou vous avez la haine. Oui, ça vous pousse de l'un à l'autre. Et on peut passer de l'un à l'autre au niveau passionnel. Toute haine présuppose un amour. Il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas la haine qui est première. C'est l'amour qui est premier. Et il arrive, ça arrive, plus qu'on ne pense, que l'amour peut se transformer, l'amour passionnel, je dis bien l'amour passionnel, peut se transformer en haine passionnelle. C'est toute la différence avec l'amour spirituel. L'amour spirituel et volontaire ne se transforme pas en haine. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'amour passionnel, il y a toujours dans le bien sensible quelque chose qui peut me nuire. Vous voyez, ça arrive. L'exemple des animaux est très net. Ce petit chat est admirable, merveilleux. Vous le caressez, vous le caressez, puis tout d'un coup, il y a des coups de patte avec ses griffes. Et vous dites, ah, oh, j'aurais jamais cru. C'est un chat. Donc, il y a du bien, et puis, il y a les griffes qui sont cachées par derrière. Et si vous le cajolez trop, il répondra comme ça. Et c'est vrai, dans tout amour passionnel, si vous le cajolez trop, il y aura les griffes. Il provoquera de la haine. On ne peut pas mettre un absolu dans les passions, au point de vue humain. L'absolu dans les passions appelle le contraire. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Le contraire de la jouissance, c'est justement la tristesse. Le contraire du désir, c'est la fuite. Vous tournez le dos, quoi. C'est ça la fuite psychologique. Vous voyez très bien. Quelquefois, quand on rencontre certaines personnes, hein, qui n'avaient aucune envie de nous rencontrer, on voit très bien la fuite psychologique. Ou elles restent là physiquement. Elles sont polies. Mais il y a la fuite. Elles sont tellement loin, psychologiquement. Le concupiscent, l'amour de concupiscence, les passions du concupiscible font avoir une répercussion sur l'irascible. Le concupiscible est fondamental. L'irascible est second. Toujours. Et l'irascible est au service du concupiscible. Quelquefois, l'irascible achève. C'est pour ça que je dis les deux extrêmes. Amour, colère. L'irascible regarde le bien, dur, difficile. Vous savez, il y a des psychologies comme ça, qui n'aiment que des situations difficiles. Et quand elles sont devant des situations faciles, elles provoquent des luttes, du drame. C'est très curieux. Il y a des gens qui engendrent le drame. Tout est paisible. Mais il suffit que cette personne arrive pour que immédiatement tout soit tragique. C'est pas pourquoi. Mais c'est tout simplement parce que leur irascible est très développé. Alors elles aiment les situations difficiles pour dominer. Parce que quand les situations sont faciles, on ne domine pas. être victorieux d'un ennemi qui disparaît, c'est pas une victoire. Il faut que l'ennemi soit là et qu'il soit un véritable ennemi. Alors à ce moment-là, on peut être victorieux. L'irascible regarde le bien difficile. C'est la passion de l'audace. Regardez chez les sportifs. Parce que les sportifs, normalement, ont un irascible très développé. C'est l'avantage du sport, c'est que ça développe l'irascible. Alors si vous avez un petit qui est plongé dans le concupiscible, qui aime trop le chocolat, eh bien essayez d'éveiller en lui un peu un instinct sportif. Ça va développer. Et puis il y a les intellectuels. Hein. Les intellectuels ont un irascible extrêmement développé, ordinairement. Je ne dis pas que tous ceux qui ont l'irascible développé sont intelligents. Mais les intelligents ont les racines développées comme conséquence, ça c'est sûr, tout le temps. L'irascible est une passion plus noble que le concupiscible. L'audace, c'est très beau l'audace. Vous voyez, c'est au point de départ de toutes les conquêtes. Si vous n'avez pas assez d'audace, l'audace implique un risque. Et il faut nécessairement dépasser ce risque pour pouvoir justement entrer dans cette passion de l'audace. L'audace. Et quand ce bien difficile, sensible, n'est pas présent, se développe en moi l'espérance. La passion espérance. C'est pas la vertu théologale, hein, mais la passion espérance. On espère gagner. C'est difficile, c'est la lutte. Mais qu'est-ce qui nous maintient dans la lutte? C'est l'espérance. On espère être victorieux. C'est pas la même chose, l'audace et l'espérance. Parce que quelquefois, il y a une audace prodigieuse, mais ça ne dure qu'un instant. Un feu de paille. Pour que ça puisse durer, ah, il faut cette passion d'espérance qui maintient une soif de victoire, qui nous maintient la tête hors de l'eau. C'est ça le propre de l'espérance. C'est quelque chose de très beau. L'audace et l'espérance. C'est noble comme passion. En face du mal, difficile, ardu. Un mal donc particulièrement violent. Il va susciter en nous la crainte. La crainte du gros chien. Il y a des craintes, des peurs. On peut avoir peur. La peur, c'est une petite crainte. Mais quelquefois, ça peut aller beaucoup plus loin. On est en face d'un mal qui risque de dominer. Et on a peur d'être dominé par ce mal. Alors, immédiatement, il y a en nous cette espèce d'attitude particulière qui consiste justement à craindre. La crainte peut aller très loin au point de vue passionnel. Ça peut vous couper les jambes, vous savez. La crainte d'un examen, ça arrive. Alors ça crée des inhibitions effrayantes. Les tempéraments un peu sensibles et craintifs, dont l'irascible n'est pas assez fort. Les racines n'étant pas séparées, elles sont complètement inhibées. Sur une frousse intense. alors quand le bal s'approche, est tout proche, n'est pas encore victorieux, mais tout proche, c'est le désespoir. Il y a une passion désespoir. C'est le gosse qui crie, qui pleure. Non, 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 non. Il appelle au secours. Le désespoir fait appeler au secours. On n'est pas encore dans la gueule du lion, mais on est tout proche. On a une frousse intense, une pétoche effrayante, c'est le désespoir ça. Une frousse effrayante, ça aussi, ça vous enlève tous vos moyens. On est dans une attitude de quelqu'un qui ne peut plus rien, qui est comme ligoté. Et puis la dernière passion, c'est la colère. Alors c'est ça qui est très curieux, la colère est complexe. La colère, elle regarde le bien et le mal. C'est dans ce sens-là, vous voyez, qu'il y a 11 passions. C'est déséquilibré. Mais c'est très bien. Les passions, c'est toujours non équilibré. Il n'y a pas d'équilibre dans les passions. Les passions n'impliquent pas de finalité. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de finalité dans les passions. Les passions demandent d'être finalisées. C'est pour ça que c'est le terrain par excellence de l'éducation. Les passions en elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Tout dépend comment vous les orientez. Elles sont bonnes parce qu'elles sont naturelles. Elles ne sont pas encore mauvaises. La colère. Nous avons tous une expérience de la colère. Rappelez-vous votre dernière colère. C'était peut-être ce matin, c'était peut-être ce soir. La vraie colère. Ça arrive peut-être une fois par an. Ça arrive peut-être tous les jours. Puis il y a des gens qui ne décolèrent pas. Ça arrive, ça. Décolèrent pas. L'apocalypse appelle le dragon rouge-feu. Ça prouve qu'il ne décolère pas. Tout le temps en colère. La colère implique. Saint Thomas dit que la colère, c'est la plus noble des passions. Donc, hein. Quand vous êtes en colère, dites-vous que c'est la plus noble des passions. Mais c'est en même temps la passion la plus dangereuse et la plus terrible. Quand quelqu'un est en colère, faites attention. Faut pas exciter la colère. Quand on était jeune, on faisait ça. Parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est très amusant de mettre en colère un pion. Un surveillant. Un professeur. Un recteur. Oh, salut. De les mettre en colère à vase clos. C'était la grande passion, je me souviens, quand on était pensionnaire dans de bons collèges. La grande joie, c'était de mettre en colère certaines dignités. Ça donnait un plaisir extraordinaire. La colère, elle regarde une injustice. C'est pour ça que c'est noble. Et elle veut rétablir l'ordre. Elle regarde toujours une injustice. Une injustice, c'est un mal. Difficile. Pénible. Et rétablir l'ordre, c'est un bien difficile. C'est pour ça que la colère nous mobilise tellement. Et c'est pour ça que la colère a quelque chose de grand. Parce qu'on veut rétablir l'ordre. Voyez, selon nos conceptions différentes de l'ordre, alors prenez cet exemple très simple, hein. Pour certains, il faut commencer par les petites casseroles, pour terminer par les grandes. Et l'ordre consiste à mettre les plus petits au début, et les grandes au terme. Pour d'autres, c'est l'inverse. Alors, une maîtresse de maison, prenez derrière les casseroles n'importe quoi d'autre. Mais les petites casseroles en premier lieu, c'est sa manie. Il n'y a pas d'autre ordre. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Et puis les dernières. Et puis quelqu'un, un malin, fait l'inverse. Elle rentre, elle voit ça. Oh, elle se met en colère tout de suite. C'est évident, immédiatement. Parce qu'il y a un désordre. C'est comme pour la question des fenêtres ouvertes ou fermées. Parce que pour certains, les fenêtres doivent être fermées. Pour d'autres, les fenêtres sont faites pour être ouvertes. Oui, le conservateur et le révolutionnaire, hein, c'est ça au fond, au point de vue politique. Le conservateur, c'est les têtes fermées, c'est évident. Et le révolutionnaire, c'est les têtes ouvertes. On est toujours conservateur par un coin de son être, au point de vue psychologique. Les uns sont conservateurs pour la cave et révolutionnaires pour le grenier. Et d'autres, c'est l'inverse. C'est extrêmement curieux, ça, mais c'est un fait. Notre psychisme est d'une complexité invraisemblable. Et il y a cet ordre que nous établissons dedans, imaginativement. Parce que, c'est ça qui est très important à comprendre pour les patients, c'est que l'imagination joue un rôle énorme dans nos patients. C'est à partir de nos images que nous sommes passionnés. Et c'est pour ça qu'on peut téléguider les personnes par les images. Et on arrive très bien à les téléguider par les images, par un jeu différent d'images. Et les passions s'achèvent dans la colère, en ce sens que, en face d'un mal sensible, un désordre, une injustice. Vous voyez, quand une injustice regarde quelqu'un de plus faible que nous, quand une injustice regarde quelqu'un que nous aimons, immédiatement, on est mobilisé dans toutes ses forces, parce qu'on est en face d'une injustice. Et à ce moment-là, on est capable de faire des gestes assez affolants, parce que la passion de la colère mobilise toutes nos forces. Et c'est vraiment la force qui est mobilisée par la colère, parce que c'est l'irascible. L'irascible, c'est notre réserve de force. Faut pas l'oublier. Le concupiscible, c'est notre réserve de passivité. C'est la passivité. Enfin, comme je te pousse. C'est ça le concupiscible. On se laisse prendre. On a la taille de la cuillère qui nous ramasse. Mais c'est ça. C'est le concupiscible, c'est ça. Tandis que l'irascible, c'est l'inverse. C'est un désir de dominer. L'irascible, c'est la force qui veut dominer. Et c'est très puissant que cette force qui veut dominer, quand on est en face alors d'un désordre, on veut à tout prix rattraper la chose. Donc, les passions, vous voyez, sont au nombre de 11. Et ces 11 passions n'ayant pas de finalité vont dans des sens extrêmement divers selon notre imaginaire. On passe du concupiscible à l'irascible, de l'irascible au concupiscible. Normalement, quand le concupiscible n'est pas satisfait, l'irascible monte et aboutit à une sainte colère. Et quand la colère éclate, après, le concupiscible reprend. C'est très curieux. Cette espèce de bascule entre le concupiscible et l'irascible. Et alors, ce qui est très intéressant à voir, et qui rejoindrait là des quantités d'analyses psychologiques, c'est de voir tous les liens qui existent entre ces 11 passions. Mettez ça sur 2 colonnes, le concupiscible avec ses 6 passions, l'irascible avec ses 5, et imaginativement, faites des liens entre les deux. Vous verrez qu'il y a ces alliances multiples entre l'amour. L'amour est présent partout. Mais entre le désir et, par exemple, la haine. Le désir et l'audace. Il y a des liens. Au contraire, il y a des oppositions. Donc, puisqu'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas d'ordre. On peut analyser la diversité des vertus, des passions, mais on ne peut pas les ordonner. C'est anarchique. Le domaine passionnel est anarchique. Et ça, c'est très très important de se le rappeler. C'est pour ça que le domaine psychique qui est fait des passions et de l'imaginaire, ne pourra être ordonné que par le haut ou par le bas. Par le haut, c'est-à-dire par notre intelligence et notre volonté. Par le bas, par nos appétits sensibles, nos instincts, notre appétit naturel. Et vous voyez là tout de suite deux tendances psychologiques totalement différentes. On mobilise le psychisme par rapport à l'instinct. Voyez Freud. On ordonne le psychisme vers quelque chose de spirituel. Alors vous avez là une attitude tout à fait différente. L'attitude de Bergson, par exemple, hein, pour prendre un nom, mobilise le psychisme vers quelque chose de spirituel. Ce spirituel peut être l'art. L'art purifie le psychisme, ça c'est bien évident. Peut-être quelque chose qui va beaucoup plus loin que l'art, l'amitié spirituelle ou l'amitié divine. Ce qui est important à noter, c'est que le psychisme fait d'imaginaire et de passion n'a pas de finalité en lui-même. Ajoutons encore que ces 11 passions nous donnent les 10 visages de l'amour. C'est très curieux. Et ce serait merveilleux de faire un guignol de l'amour-passion avec ces 11, ces 10 visages. Puisqu'il y a 11 passions, il y a donc 10 visages. Puisque l'amour est présent dans tous. La haine, c'est un visage d'amour, mais tout à fait particulier. Alors il faut démasquer pour retrouver l'amour présent. La colère implique un amour. Les grands colériques sont des grands amoureux. C'est pour ça qu'ils sont quelquefois si dangereux. Et qu'ils peuvent aller justement vers la destruction, parce qu'ils aiment beaucoup. Alors ils ont ces 5 colères par rapport à leur amour. La colère d'une tigresse par rapport à ses petits. C'est extraordinaire, ça. Et pour le reste, non. Parce qu'on touche quelque chose. Alors, il y a quelque chose là de très beau à faire. Je ne le fais pas. Je vous laisse simplement, je vous suggère, pour que vous puissiez le faire, les 10 visages de l'amour. Le désir. La jouissance. La haine. La tristesse, la colère sont des visages de l'amour. Et l'amour est toujours présent au milieu. Parce que l'amour à l'état pur, ça n'existe pas. L'amour se détecte par nos désirs. L'amour se détecte par nos colères. Un bon psychologue, quand il voit quelqu'un qui est toujours en colère, il doit détecter l'amour malheureux qui est derrière. Il doit détecter ça. Il doit détecter la fragilité dans l'ordre de l'amour qui fait qu'on est toujours en colère. Parce que la colère est une manifestation. C'est un cri. C'est un cri de désespoir quelquefois. Donc on doit pouvoir détecter ça. Vous voyez ce domaine extrêmement riche que nous portons en nous, tout notre psychisme. Je n'insiste pas plus. Mais je veux tout de suite répondre à quelques questions posées. Alors, ceux et celles qui trouvent que c'est un peu trop long, elles peuvent me partir, parce qu'il y a des questions de métro, des questions de... Bon, je continue pour les autres. Faites pas de bruit en partant. Partez, filez à l'anglaise, tout doucement. Alors, je reviens sur ce que j'avais dit la dernière fois, en disant que après l'imagination, il y a pour l'homme ce qu'on appelle la cogitative. Oh, c'est un très gros problème, très intéressant. La cogitative ne provient pas d'Aristote, ni l'estimative, ça provient de saint Thomas. Alors c'est là où je pose la question, en philosophe. Saint Thomas dit ça en théologien. Dois-je, retarder la cogitative au niveau capacité particulière de l'âme sensible, au niveau philosophique. Ou je peux expliquer la cogitative au niveau connaissance affective, passionnelle. Parce que nous nous servons de nos passions pour connaître la réalité. Alors, je vous dis, pour saint Thomas, qu'est-ce que c'est que la cogitative ? Puis après, on analysera. Pour saint Thomas, la cogitative, c'est ce qui nous permet de discerner le bien sensible qui nous convient. Chez l'animal, il y a une espèce d'instinct, on l'appelle l'estimative, qui fait qu'un animal doué ne prendra jamais du poison. Il choisit son herbe, admirablement. Il renifle, puis il ne touche pas. L'homme se trompe dans la cueillette des champignons. Parce que son estimative est fatiguée à cause de sa raison. On a tellement raisonné dans sa vie, on a tellement fait appel à la logique que notre estimative est fatiguée et alors notre cogitative arrive difficilement à discerner le bien sensible pour nous. Et on se trompe. Il y a encore chez certaines personnes un sens, quand on dit qu'on a le nez creux, on sent les situations. En Afrique, ça m'avait beaucoup frappé. En Afrique, des Africains, des petits Africains, entrant dans leur salle de classe, sentent tout de suite s'il y a un serpent. Tout de suite. Alors que vous, braves Européens, vous entrez. Eux sont tout de suite. C'est ça, la cogitative. On sent une situation. Nous, il faut des choses beaucoup plus grosses. Hein. Nous sommes fatigués. Beaucoup trop civilisés. Alors la sensibilité... Elle s'est affinée d'une autre manière. Je ne veux pas dire qu'il faut retourner à redevenir être ceux qui sont capables de charmer les serpents. Parce que je crois que charmer les serpents, c'est ça. C'est un sens particulier qui est peut-être lié à l'art, du reste. Mais on sent les situations qui nous sont convenientes, comme on dit en latin. Les situations qui nous conviennent et les situations qui ne nous conviennent pas. Pourquoi dans certains milieux, on n'a aucune inspiration artistique ? Ça existe. Et comment ça se fait que dans d'autres milieux, on est euphorique ? Il y a des situations qui nous conviennent, qui sont bonnes pour nous. Ah, comme on est bien là. Dressons-y trois tentes. Hein. Ça, c'est la cogitative qui fait dire ça. Dressons-y trois tentes. Parce que ça en est tellement bien. Si on pouvait rester là tout le temps. Alors, il faut redescendre dans la vallée. Vous voyez, c'est très difficile. Et quand vous demandez d'analyser, vous dites, ah, je sais pas, je me sens bien. Autrement, je me sens mal. Et ça peut arriver quelquefois. Des gens qui peuvent sentir ça. Des champignons vénéneux. Ils n'en prendront pas. Ils laisseront le voisin s'empoisonner. Mais eux n'en prendront pas. Et on se dit, mais qu'est-ce que tu as ? Mais non, c'est, ça ne va pas. Les gosses peuvent avoir ça. C'est très curieux. Plus que les grandes personnes, du reste. Parce que nous raisonnons. Voyez, il y a tout ce domaine extrêmement difficile à préciser aujourd'hui. Du magnétisme. C'est-à-dire des situations qui sont bonnes et mauvaises. Il y a des gens qui sentent ça, il y en a qui ne sentent pas. Et qui sentent ça tout de suite. Je me souviens quelqu'un que je connaissais bien qui avait un don. Je vois, c'est un don. Mais on l'a tous, ce don. Mais on ne le développe pas. Et là, qu'ils l'ont développé un peu plus. Et qui voyaient tout de suite, dans certains endroits, des forces magnétiques qui passent. Et qui disent, si vous vous mettez là, mais c'est évident, vous aurez à lutter beaucoup plus et vous n'arrivez pas à vous endormir. Parce que le corps sera toujours en lutte. Il ne sera pas au repos. Il suffit quelquefois de changer à 10 cm pour que immédiatement tout change. Je l'ai vu, ça, je l'ai constaté. Ce qui fait qu'on voit très bien. Vous voyez, je parle de ces forces magnétiques, parce qu'on dit magnétisme, hein, qu'est-ce que ça représente exactement? Difficile, scientifiquement, on est sur le possible. Sentir si c'est bon ou mauvais, c'est ça qui est important dans la cogitative. C'est détecter qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui nous met dans un état d'irascibilité et d'autre au contraire qui nous détend. Il y a des lieux qui nous détendent et il y a des lieux qui nous mettent en état de... Ah, vite, 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 que je m'en aille. Hein. Ça existe, ça. Il y a des serres surchauffées. Il y a des serres glaciales. Bien au contraire, dans lesquelles on est bien. Mais c'est des choses difficiles à préciser. Je me souviens, c'était dans une retraite que je prêchais. Dans un endroit, la supérieure m'a dit, vous verrez mon père, comme ici on observe le silence. Je suis entré dans la première salle, je me souviens très bien. J'avais l'impression d'une serre surchauffée. N'a pas envie d'y rester, où il faut beaucoup, beaucoup d'eau pour faire le contrepoids. C'était une serre surchauffée. J'aurais pas pu analyser d'où ça vient. Alors c'est ça qu'on appelle la cogitative, vous voyez. C'est cette connaissance de ce qui est bon pour nous. C'est pour ça que je me demande au plan philosophique si ceci ne relève pas, nous le verrons, d'une connaissance affective poussée à travers les passions. Et s'il faut vraiment ajouter une capacité nouvelle, ou tout simplement mettre l'intelligence liée à l'affectivité et liée aux passions, qui fait qu'on détecte certaines choses, on ne les détecte pas. L'intelligence affective, nous la verrons, c'est une intelligence très particulière. Et je crois que l'intellect, l'intelligence affective, peut aller jusque-là. Alors c'est là où je ne sais pas s'il faut garder cette capacité. Ça vient d'Avicenne, c'est pas parce que ça vient d'Avicenne que je dis ça. Avicenne était remarquablement intelligent, tout le monde le sait. Mais... c'est peut-être un théologien qui dit ça, le philosophe doit aller plus loin. Je ne sais pas, je pose le point d'interrogation. Autre question. Une des raisons avancées par Descartes pour rejeter le simple témoignage des sens. Vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais dit, cette grande distinction que fait Aristote entre les sensibles propres et les sensibles communs. Une distinction très importante. Au moins avoir compris une fois dans sa vie. Je crois que c'est très important. Ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. Les sensibles propres, c'est ce qui relève de chaque sens en particulier. Et les sensibles communs, ce sont ceux qui sont saisis par plusieurs sens. Exemple très simple, vous voyez, du mouvement. Le mouvement est senti par le toucher. Mettez votre main sur une roue qui tourne à toute vitesse. Mettez un bonbon dans votre bouche, et puis vous le remuez. Une excellente occasion de prendre un bon bonbon pour une expérience philosophique. Excellent. Un motif merveilleux. Voir la manière dont on goûte quelque chose quand ça tourne. Le mouvement, vous le voyez aussi. Vous voyez un avion qui bouge. Le mouvement, vous l'entendez aussi. Donc le mouvement est saisi par divers sens. Le mouvement est insensible commun. La grandeur est insensible commun. Il y en a cinq de sensibles communs, il faut les savoir. La grandeur, le nombre, le mouvement, le repos et la figure. La figure, la physionomie. C'est pas la figure, ne traduisez pas par figure, parce que la figure, ça fait tout de suite penser. La physionomie d'un terrain, d'un... La physionomie, c'est le comportement général d'un être. Vous savez bien, quand vous voyez de loin quelqu'un, vous le reconnaissez par sa manière dont il marche. Ah, c'est un tel, on est tout de suite reconnu. Quand on connaît bien quelqu'un, on voit tout de suite ça. C'est ça, la manière dont il marche. C'est sa figura. En latin, ça dit bien la chose figura, la physionomie. Bon, ces cinq sens communs sont saisis par divers sens. Pour Aristote, la sensation au sens fort saisit toujours un sensible propre. Et seul le sensible propre est ce qui détermine telle ou telle sensation. Et le sensible propre n'est pas mesurable, il est indivisible. Tandis que le sensible commun est mesurable. Et c'est pour ça que Descartes, impressionné par la science moderne, impressionné par les mathématiques, rejetera les sensibles communs pour n'accepter que les sensibles, rejetera les sensibles propres pour n'accepter que les sensibles communs, les seuls mesurables. Je crois ça très très important. Alors, on me rappelle, on a tout à fait raison de dire ça, l'une des raisons avancées par Descartes pour rejeter le simple témoignage des sensations à l'égard des sensibles propres, au moins pour ne pas l'accepter sans examen critique. Donc, ne jamais l'accepter directement. C'est ça qui est important à voir. La connaissance humaine ne peut pas commencer par les sensibles propres, donc par nos sensations, parce qu'on ne peut pas savoir si on se trompe. Ni le fait qu'il donne lieu à des illusions optiques et même à des illusions du toucher. Donc optique sonore et même illusion du toucher. Les illusions du toucher sont beaucoup plus rares, mais les illusions du toucher peuvent exister. On me donne l'exemple de piqûres dans le dos, à moins de 2 cm de distance, sont ressenties comme une seule piqûre. Avis aux amateurs. Vous voyez, on voit très bien, dans le dos. Du reste, on arrive à des choses très très curieuses. Je vous ai donné l'exemple de Dumas. Mettez un voile sur les yeux, bouchez-vous le nez, mettez du thé ou du café, vous n'arriverez pas à déterminer. Alors, pour les amateurs de thé, c'est extrêmement humiliant. J'ai dit ça une fois, un grand amateur de thé, monsieur, c'est de la blague. Je dis, écoutez, on va faire l'essai. Alors, acceptez qu'on vous bande les yeux, qu'on vous bouche le nez, et puis versez. Vous n'arriverez pas à discerner. Il n'a pas discerné. Il faut vraiment le boucher. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe. Mais c'est intéressant parce que ça prouve que l'odeur et la vue jouent un rôle énorme pour le goût. Et c'est vrai, ça. Les gens qui, par maladie, sont privés de tout odorat, c'est extrêmement béni. Une des choses les plus pénibles, privé complètement de l'odorat. Ils en perdent l'appétit. Et ils doivent faire grande attention, ils en perdent l'appétit. Parce que c'est l'odorat qui met en nous un désir de manger, quoi. Ça fait tous sentir ça. Bon, vous arrivez tard au repas, vous avez très faim, puis vous sentez une odeur extraordinaire qui sort de la cuisine. Ça aiguise l'appétit. Vous léchez les babines à ce moment-là en disant, oh, c'est merveilleux, quel repas il va y avoir, extraordinaire. Parce que l'odorat, ça annonce prophétiquement le gigot. Ça annonce. C'est prophétique, ça. Ça annonce. Des choses qui annoncent d'une façon étonnante. Alors, on voit très bien où situer ces illusions du point de vue philosophique et par là même comment répondre à cette objection. Par exemple, un bâton plongé dans l'eau et ainsi de suite de Descartes. Bien, les illusions proviennent de l'imagination. Ça, c'est sûr. Je vous ai dit cette chose très curieuse que Sartre lui-même a notée et qui est très intéressante à voir. C'est que nos sensations, je n'en dis que toucher, nos sensations impliquent toujours des sensibles propres et des sensibles communs. Mais quand nos sensations, dans lesquelles on est très attentif, les sensibles communs sont ordonnés aux sensibles propres. Tandis que dans vos images, c'est l'ordre inverse. C'est les sensibles communs qui l'emportent sur les sensibles propres. Il y a une inversion. L'imagination, c'est la faculté qui inverse l'ordre des sensibles. C'est extraordinaire, ça. Et les psychanalystes m'ont dit, moi, certains psychanalystes que je connaissais, m'ont dit, quand ils étudient les rêves, les cauchemars, que quand on était très fatigué, dans nos rêves, les sensibles communs sont seuls présents. Et c'est du reste vrai, les cauchemars, vous n'avez qu'à réfléchir sur vos cauchemars, si vous en avez. C'est toujours les sensibles communs. Vous êtes enlisés, vous êtes immobilisés, puis les gros chiens qui arrivent. Il y a une quantité énorme de gens qui arrivent, vous êtes seuls. C'est toujours les sensibles communs qui l'emportent. C'est très curieux. L'effet de masse, de quantité, sensible commun. Quand on est moins fatigué, et quand la santé revient, les sensibles propres reviennent dans les rêves. C'est ainsi. J'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait pas du tout. Ça m'a intéressé parce que, de fait, je peux dire, alors là, ça c'est facile à comprendre. Et ça en fait la remarque très très simple que, dès que vous fermez les yeux, que vous représentez, c'est tout à fait autre chose que la sensation immédiate. Et quand vous êtes en face d'un artiste, vous voyez que le grand artiste met en pleine lumière les sensibles propres. Les petits, c'est les sensibles communs. Un discernement qui est très curieux. Alors, l'imaginaire joue toujours, faisons attention. Je crois qu'il y a là, justement, quelque chose de très intéressant à noter. Le philosophe étudie autant que possible les actions humaines pour elles-mêmes. Il sait qu'il y a des actions humaines, des opérations humaines qui sont viciées. Mais il étudie autant que possible le cas dit normal. Et il étudie la sensation pour elle-même. Tandis que le psychologue étudie la sensation dans son exercice. Et dans son exercice, l'imagination est présente. Je peux isoler les deux. Et c'est là, je crois, toute la différence entre l'étude que nous faisons de la sensation regardée pour elle-même et les sensations qui peuvent très bien aboutir, du moins, dans laquelle il y a des hallucinations. Je ne nie pas du tout les hallucinations. Mais ce n'est pas ça que j'étudierai comme prototype de la sensation. J'essaierai d'étudier les sensations normales, comme d'une façon générale. Quand j'étudie ce qu'est l'homme, je n'étudie pas le malade. J'étudie l'homme, et autant que possible, l'homme intelligent. Et autant que possible, l'homme capable d'aimer. Parce que c'est ça qui est important. Je fais la philosophie de mes expériences et je distingue l'expérience normale de l'expérience clinique. C'est pas la même chose. Et je peux faire le discernement. Donc je peux faire discernement moi-même de mes sensations, qui sont des sensations normales, et puis des sensations qui frôlent la fatigue. Et je saurais très bien qu'il y a des sensations en moi, qui, parce que je suis fatigué, eh bien je ne vois plus très bien, ou je n'entends plus très bien, et je laisserai tomber ces sensations-là seconde. Autrement dit, le philosophe essaie de partir de l'expérience la plus normale, en laissant tomber les autres. Et il peut faire ce discernement, il a parfaitement le droit de le faire. Et alors ce n'est pas parce que certaines expériences sensibles sont douteuses, peuvent impliquer des hallucinations, que la sensation devient mauvaise. Oui. Parce que je sais que si je ne regarde plus les sensations, qui regardent les sensibles propres, je risque de me couper du réel au sens le plus fort. Voilà ce que je répondrai.